Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité?
Eh bien, bonne année à tous, on est enfin en 2025, 2024 vient de se terminer, donc on ouvre cette première émission avec Guillaume Autrage qui est allé faire un raid assez incroyable, Paris-Bakou à vélo pour la COP29. On vous avait promis sa venue, ben voilà, le voilà ce soir. Il va nous raconter ses 6500 km et puis aussi l'accueil qu'il aura reçu à la COP29 pour montrer que le vélo est une solution pour pouvoir développer les mobilités décarbonées. En fait, le vélo, c'est sérieux, quoi. N'est-ce pas, Guillaume ?
Oui, tout à fait. Il faut le prendre sérieusement. Je vais expliquer pourquoi. Mais c'est un sujet qui, maintenant, doit être porté sur le plan mondial et qu'on arrive à faire cette transformation de nos modes de transport et faire que le vélo passe dans toutes les villes de 1%, 2%, ce qu'il est un peu par défaut, à 10% et plus. Et ça, c'est tout à fait faisable.
Eh bien, nous allons pouvoir en parler après la page d'actualité. OK, à toi, Ben.
Oui. On considère toujours que la fin de l'année, c'est le moment clé pour pouvoir faire une sorte de bilan. Et dans le cadre du récapitulatif, on a à la fois tout ce qui est exploit de l'année écoulée. Hein. On peut prendre par exemple la voiture électrique.
Oui,
la voiture électrique.
Il y en a moins.
Mais la voiture électrique, c'est quand même un grand exploit de savoir que y en a une en Bolivie.
Ah !
Eh oui. Sa vitesse maximum, c'est à peu près 55 km à l'heure. Son réservoir, son autonomie, quoi, comme on dit, c'est 80 km. Donc ça fait pas beaucoup. Mais ça suffit amplement. Et puis c'est pas cher. Et c'est accessible au commun des mortels. Ce qui en fait quand même quelque chose de pas mal. Et en plus, j'ai appris que ce petit modèle, dont le nom est Quantum, eh bien, c'est associé, les constructeurs se sont associés à des programmes sociaux pour au fond développer tout un système au sein même de...
Alors, c'est la voiture électrique des pauvres.
C'est la voiture électrique qui fait en même temps ambulance et qui peut aller un peu partout. Rendre des services comme par exemple des médecins dans la cambrousse, chose qui serait nécessaire aussi en France évidemment, vu le désert médical ici, mais c'est intéressant ça.
Oui, mais nos médecins ont des dusters ou des... SUV.
Voilà quelques...
Mais bon, donc les voitures électriques, il n'y a pas que des chinoises, quoi. C'est ça que tu veux
voilà,
nous dire.
Voilà, exactement, il n'y a pas que des chinoises, il n'y a pas que des SUV qui vont... comme diraient certains, flinguer l'acceptabilité sociale du projet.
Bon, bah écoute, c'est une bonne nouvelle.
Voilà, mais j'en ai plein des comme
ça. Eh ben vas-y, continue.
Mais il y en a d'autres qui sont moins bonnes aussi. Ça, faut quand même...
Allez.
Bon, alors, puisqu'on parlait un peu d'énergie, ben, la Grande-Bretagne est le premier pays, je crois, du G7, qui a décidé de fermer tout ce qu'ils avaient.
Toutes ces centrales à charbon.
Tout ce qui était charbon, ouais. C'était le premier à entrer dans l'entreprise et c'est le premier à en sortir.
La France, non.
L'Italie va probablement y arriver.
Mais il paraît que la France a toujours 30 ans de retard sur les, sur les révolutions industrielles.
Non, mais là, en tout cas, c'est prévu pour 2027. Donc, on n'est pas 30 ans. Et puis, à part ça, qu'est-ce qu'on a comme nouvelle ? Alors, est-ce que c'est une nouvelle vraiment écolo ou pas ? Il faudra que tu me dises, François. C'est par exemple le nombre de gens qui prennent le train de nuit. Il paraît qu'il y a un boom extraordinaire, même en France, mais un peu partout en Europe.
Et je ne suis pas le pape de l'écologie, même si je me prénomme François, attention. Donc, non, c'est à toi de nous dire si c'est de l'écologie ou pas.
Moi, je suis pas sûr du tout que c'est pour des raisons écologiques, mais peut-être que les gens veulent tout simplement, en ont marre de prendre le TGV en plein jour.
Ou l'avion.
Ou l'avion. et décide que, ma foi, le train de nuit, c'est pas mal. Mais est-ce que c'est vraiment pour des raisons qui ont à voir avec l'empreinte carbone?
Est-ce que c'est grave de savoir quelles sont les motivations ou c'est quand même les usages et les comportements?
C'est les usagers.
Bon.
Est-ce qu'ils ont un comportement virtueux ou pas? Ça, c'est ça la question.
Bon. En tout cas, toi, tu mets ça dans la case, dans la colonne des plus.
Dans la colonne des plus, ouais. Mais j'en ai d'autres.
Ah bah vas-y. Donne-nous des plus, parce qu'il y en a marre d'avoir des moins.
Ouais. D'abord, il va y avoir un événement important. C'est à Paris, d'ailleurs, au Grand Palais, qui va avoir lieu en avril, et qui s'appelle, comme on le dit en bon français, Change Now. Et cet événement...
Le changement, c'est maintenant, c'est ça?
Ils appellent ça Change Now. Ils appellent ça Change Now. Alors c'est un sommet qui va rassembler toutes sortes de leaders dits visionnaires qui représenteront et qui présenteront toutes sortes de solutions innovantes qui sont
des gens qui ne sont pas Elon Musk. Ça existe,
voilà,
hein.
et qui ont quelque chose à dire et qui ont quelque chose à exposer.
Bah écoute, il va falloir aller mettre des micros par là parce que ça.
Il suffit d'aller voir le site qui s'appelle www.changenow.world.fr.
Voilà. D'accord.
Et sinon, il y a d'autres événements qui sont importants qui vont avoir lieu auparavant. C'est notamment l'Université de la Terre à l'UNESCO.
D'accord.
C'est aussi Paris. Hein.
Tu nous donnes une petite date quand même qu'on se...
C'est du 14 au 15 mars.
D'accord, je note.
14 et 15 mars, ouais. Et c'est gratuit pour les moins de 25 ans. Je ne sais pas si tu rentres dans cette catégorie.
Je suis foutu, encore falloir que je paye. Hein.
Voilà. Non, mais bon, ça c'est
important. Autant que ce n'est pas proportionnel à l'âge, ça va, quoi.
Et il y a un salon de la plongée aussi qui a lieu en janvier.
Oui. Ah, bah, merci.
C'est au parc des expositions.
D'accord.
Ça ne t'intéresse pas, la plongée?
Non.
Bon, eh ben, alors revenons à d'autres considérations qui sont tout à fait importantes. C'est par exemple la réintroduction du castor. Ça fait 50 ans.
Donc tu nous donnes un scoop de 50 ans.
Je vous donne un scoop, mais c'est un scoop quand même.
Explique-toi.
Non, mais je pourrais vous parler d'autres...
Non, mais qu'est-ce que tu voulais nous dire avec le retour des castors? Parce que c'est vrai que c'est aussi un titre d'un livre d'un écologue allemand, un livre assez passionnant, mais bon...
Parce que tu pensais au succès du train de nuit?
Non, toi, c'est ça.
Pas du tout, ça, c'est encore un autre sujet.
Voilà. Bon, qu'est-ce que tu voulais dire sur les castors?
Sur les castors, je voulais dire que c'est aujourd'hui qu'on reconnaît enfin... que cet animal qui avait disparu de l'Hexagone au début du XXe siècle est de nouveau a aujourd'hui vraiment
sa place.
Vraiment sa place. Mais non seulement il a sa place, je crois qu'il est même considéré comme étant l'un
des bio-indicateurs.
Un phare dans le processus...
Ça nous donne un peu d'espoir et il en faut.
Il en faut beaucoup même, il en faut beaucoup.
Alors, as-tu d'autres bonnes nouvelles comme ça?
J'en ai... Il y en a une, mais je ne sais pas si ça rentre dans la rubrique de l'écologie.
Ah.
C'est ce qu'a décidé le gouvernement suédois. Peut-être que les Français vont s'en inspirer d'ici 20 ou 30 ans. C'est... le retour au manuel scolaire l'arrêt complet de tous les écrans et de tous les ordinateurs.
Ils reviennent à la pâte à papier.
Ils reviennent vraiment au stylo parce qu'ils ont vu que pour notamment les capacités de lecture de nos chers bambins, c'est une cata ce qu'on a fait comme focalisation sur l'informatique. Et donc on revient gentiment au manuel scolaire. Il n'y a pas d'opposition en Suède là-dessus, il n'y a pas d'opposition.
Donc comme quoi, les révolutions vont dans les deux sens, quoi. C'est ça que tu veux nous dire? Donc c'est révolution contre révolution
Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a surtout des pays où on est suffisamment...
Malin pour bouger, quoi.
On est malin pour reconnaître aussi quand on s'est planté.
D'accord. Bon, c'est vrai qu'en France, on a parlé de...
Pour le nucléaire, on n'a pas encore réussi ça en France, non?
Non. On a enfin réussi à allumer la Flamanville. Mais bon, donc ça aura pris quand même.
Oui, oui, ça c'est vrai. Ça,
beaucoup d'années. Donc c'est quand même un événement 2024. Je sais qu'il ne va pas te ravir.
Mais bon,
peut-être qu'on va remettre ça à une prochaine émission parce que ce serait peut-être un peu long de te lancer sur le sujet. D'autant que là, c'est moi qui dois prendre la parole, Ben.
Ben vas-y.
Le chronomètre est infernal. C'est... Alors moi, je n'ai pas fait mon tour du monde à Paris, comme toi, tu es spécialiste. Non, moi, j'étais content parce que enfin, on n'est plus orphelin, quoi. Ça y est, on a notre ministre de l'écologie.
Ah oui.
Et tu connais son nom, hein, puisque c'est Agnès Pannier-Runacher. Bon, c'est vrai que c'est carrément une survivante hein, à l'ère de des bouleversements climatiques et bouleversements ministériels.
Elle tient la route, quoi.
Tout à fait. Elle a réussi à être présente dans les trois derniers gouvernements. Je n'ai pas vérifié, mais c'est sûrement l'une des rares. Donc, elle a fait Attal, elle a fait... en tant que ministre de l'environnement, donc de l'écologie, comme on dit maintenant, ou de la transition écologique. Bon, ça change à chaque fois. Je finis par m'y perdre. Donc, elle aura fait Attal, elle aura fait Barnier, elle aura même fait... Et donc, elle fait Bayrou. Alors bon, on est content, hein, on sait qu'elle garde son poste, mais
c'est du recyclage.
Si tu veux, elle garde son poste, mais quitte de ses missions, parce qu'en fait, elle a toujours la transition écologique, mais elle n'a plus la transition énergétique. Donc on se demande comment on va pouvoir aligner les curseurs, mais bon, on lui souhaite bon courage. Mais bon, à côté de ça, elle a récupéré la forêt. Hein. C'est quand même essentiel. Ça va changer la face du monde.
La forêt. La face de la forêt, en tout cas.
Voilà, c'est ça. Et les scolytes vont être très contents. Donc, la forêt qui était jusqu'à maintenant au sein du ministère de l'Agriculture, quand de temps en temps, il volait de ses propres ailes. Mais bon, la voilà maintenant revenue dans la sphère de l'environnement.
Mais ça doit être très compliqué, François.
Effectivement, je me demande comment on peut faire. Donc, Madame Runacher sait où elle habite. Hein, c'est toujours la même adresse depuis 9 mois. Mais par contre, on a un peu l'impression que ses classeurs changent et volent. Elle doit changer de portefeuille. Donc, si ce n'est de portefeuille, au moins de dossier d'une manière assez fréquente. Bon, alors moi, je me suis dit que le plus simple, c'était quand même de regarder son agenda pour essayer de comprendre ce qu'elle faisait. Alors... Bon, lundi, c'était assez tranquille hein, pour madame la ministre. Elle a commencé à 11h30 en écoutant la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs, d'autant plus que ce n'était pas elle qui prononçait le discours, c'était notre président de la République. Bon, en fait, c'était assez peinard pour l'écologie. Ensuite, à 16h30...
Oui, il fallait l'écouter quand même.
Oui. Donc ensuite, à 16h30, c'était un entretien avec le contre-amiral. Toi qui te plains toujours qu'il n'y a pas de... On ne parle pas de militaire dans l'écologie, eh bien détrompe-toi, madame la ministre est allée voir le contre-amiral. Le contre-amiral qui est secrétaire général... Non, Pierre Rialan, qui est secrétaire général de la mer, mais par intérim. Donc, bon, je ne sais pas ce qu'ils ont pu se dire, mais ça, on ira se renseigner. Ensuite, à 18h, alors là, c'est intéressant parce que c'est carrément une résurrection, puisqu'elle était en entretien avec Antoine Pélion, qui est secrétaire général de la planification écologique. Planification écologique qui était passée, bon, qui avait été la grande affaire, semble-t-il, des gouvernements précédents, autour des années 2000, et puis qui était un peu disparu des radars. Sur le site internet, la dernière actualité date de 2022. Et puis surtout, cet automne avec Barnier, Michel Barnier l'avait carrément débranché, quoi. Madame Runacher va réactiver la planification. Donc, on peut penser qu'elle va réactiver la planification écologique. Ouais. A priori, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Mais on va suivre la chose. Et puis, bon, c'est pas tout. Alors, mardi, c'était la rentrée avec la visite de l'ensemble des directeurs généraux d'administration du ministère. Bon, ça, c'est normal. Hein, faut quand même savoir qui on a sous ses ordres, mettre un peu de l'ordre dans la maison. Ça fait pas de mal. Ensuite, alors c'est pareil, on avait un entretien avec Philippe Duclos. Alors Duclos, LAUD, hein, pas comme notre l'ancienne ministre vert de la gauche plurielle. Alors Monsieur Duclos, qui lui est directeur de la performance économique et environnementale des entreprises. Bon.
C'est un métier. Hein.
Ouais, c'est, alors ça veut tout dire, surtout pas grand-chose. En fait, c'est les entreprises de l'agro-industrie, donc du secteur de l'agriculture. Donc c'est un peu surprenant. Alors performance pour l'agriculture, alors je trouvais ça mignon, parce qu'il faut quand même savoir, puisque depuis le recensement agricole est passé par là, ou du moins... Les résultats ont fini par sortir et ça nous apprend quand même que le PBS, bon, qui est un indicateur un peu compliqué que je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui, d'autant que je ne maîtrise pas complètement le sujet, cet indicateur économique montre quand même que le potentiel économique des entreprises agricoles françaises entre 2010 et 2020 a baissé de 10%. Bon, c'est un fait qu'il va falloir prendre en compte. Et ce qui peut peut-être expliquer le courroux de certains, mais il va falloir regarder tout ça dans les détails, parce que toutes les zones françaises ne baissent pas, certaines. Moi-même, j'ai trouvé des secteurs agricoles où, au contraire, ça augmente de 10%. Bon, il faudrait y revenir là-dessus, mais ça, c'est un sujet qui méritera au moins une bonne série d'émissions.
Ça, c'est la ministre qui peut décider. Si...
Non, c'est nous qui déciderons ce qu'on fera dans l'émission. Ensuite, il y a eu un déjeuner avec François Rebsamen, qui est ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, mais qui est aussi qui était l'ancien maire de Dijon et puis une ancienne gloire du PS. J'imagine qu'il y a quand même pas mal de choses à voir entre eux, puisque entre aménagement du territoire et écologie, la question qui pourrait peut-être se poser, c'est de savoir comment on aménage le territoire sans bétonner. Ça pourrait nous changer. Donc en tout cas, c'est un grand sujet que suivra une de nos dernières invitées de 2024, Muriel de la FNE Île-de-France, qui était très, très concentrée sur cette question de l'imperméabilisation des sols. Bon. Ensuite, c'était un déjeuner avec le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Bon, pour tout vous dire, c'est la question, naturellement, de la fermeture de la pêche dans le golfe de Gascogne qui agite le Landerneau. La ministre, j'imagine, va devoir faire un petit peu de déminage de la situation pour pas... voir des manifestations et autres levées de boucliers. Enfin, ça s'est terminé, alors là tu vas être content, incroyable, par un entretien avec l'amiral Nicolas Vaujour. Donc encore un militaire, donc un marin j'imagine, je ne sais pas quel genre de bateau, qui est chef d'état-major de la marine nationale. Donc voilà, écoute, on n'en parle peut-être pas au grand jour, mais l'écologie a manifestement à voir avec les questions militaires. On va te laisser un jour creuser le sujet, mais en tout cas tu vois, t'as la ministre et au parfum et s'en occupe. Bon, alors aujourd'hui c'était peinard, hein, c'était début, commence par le conseil des ministres à 10h, ensuite un petit entretien avec le ministre délégué chargé de la ville, là aussi il y a de l'interface à voir entre l'écologie et les villes, les quartiers et
dis-moi,
et autres.
Quand on est ministre comme ça, on s'occupe aussi des questions internationales, on ne s'occupe pas seulement de...
En tout cas, pas cette semaine, hein, parce que cette semaine, c'était la ville. Ensuite, on est revenu au coquillage. Donc, Madame la ministre avait rendez-vous à Philippe Le Gall, qui est président, non pas des coquillages, hein, je déconne, mais du Comité national de la conchiculture. Mais bon, c'est plus facile à dire. Et puis, jeudi, c'était presque repos. On est revenu à la semaine ça m'a rappelé des bons souvenirs, hein, le jeudi, tranquille. Alors, c'était Conseil national de l'ordre du mérite maritime. Donc j'imagine que Madame la ministre est allée remettre quelques médailles à des braves marins. Ça ne mange pas de pain, ça fait faire quelques ronds dans l'eau, ça doit être tout à fait amusant. Mais par contre, arrêtons de rigoler, parce que vendredi, c'est debout 4h30 pour pouvoir aller en déplacement au Pas-de-Calais toujours à la rencontre des marins, vous me direz. Donc c'était vraiment pour l'écologie, c'était une semaine plus que maritime. Donc, ça, c'est même surprenant que ce soit une semaine à thème comme ça. On a l'impression que Madame la ministre était la ministre de la mer cette semaine.
Il n'y a plus de ministre de la mer.
Ah si, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la mer. Voilà, c'est d'une évidence totale. Donc voilà, bon, elle passera, si vous voulez l'écouter, à 7h45, elle sera invitée de la matinale de LCI Nord. Donc voilà, écoutez, si vous avez besoin d'avoir des nouvelles de la ministre, on sait maintenant où c'est. Donc, écoutez, bon voyage, Madame la ministre. Hein, on va vous souhaiter un bon tour dans la province, dans les Hauts-de-France.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Eh bien, rebonjour à tous. On est donc dans les arènes de l'écologie, première émission de l'année 2025. Et pour débuter, on a pour invité Guillaume Autrage, qui est un cycliste très longue distance, qui a eu l'idée assez incroyable de relier Paris à Bakou. Ça fait quand même 6500 kilomètres. Hein, c'est bien ça, Guillaume ?
Oui, tout à fait.
Voilà. Donc,
bonsoir, François.
Mais pas uniquement pour le plaisir, c'était de la balade utile. Hein, c'était pour aller porter 10 propositions en faveur du vélo à la COP29 pour montrer l'intérêt, je dirais, d'investir dans des infrastructures cyclistes pour ne serait-ce que changer, ou bien avoir
le monde.
Le monde, comment le vélo peut changer le monde, au moins le climat, en réduisant des émissions inutiles, qui sont par exemple celles du déplacement quotidien. Et on verra ça, j'irai, on va rentrer dans la technique tout à l'heure, en deuxième partie de notre interview, parce que franchement, pour commencer, moi qui ai fait un peu de vélo quand j'étais gamin, 6500 bornes, c'est quand même quelque chose, quoi. C'était... Alors, je t'ai accompagné sur la première distance, je me suis cassé la figure sur le bord du canal de l'Ourcq, mais bon, ça c'est un détail, mais c'était que 60 km, quoi, et t'en as fait 100 fois plus. T'étais tout seul. Alors au début, là, quand je t'ai quitté sur le canal, on était une bonne vingtaine, trentaine peut-être, hein, jusqu'à Meaux.
Ouais.
Et après, ben, ça s'est passé comment ?
Alors en fait, oui, alors 6500 km, ça peut être abyssal ou ça peut être sidérant et ça peut tétaniser, mais en fait, dans la réalité, c'est tout à fait faisable. Je ne me considère pas comme un athlète sportif à quelconque niveau. Ce qu'il faut savoir sur le vélo, c'est que quand on est capable de faire ses premiers 20 km, 30 km, etc., en fait, on est capable de faire des étapes qui deviennent des étapes de 60-70 km. Et puis après, on les enchaîne, on se repose bien la nuit, on adapte son corps et après, c'est faisable de faire ces 6500 km. Donc c'est dingue, mais en même temps, je pense que c'est faisable par la plupart des personnes. Et si tu n'étais peut-être pas tombé ou si ton agenda n'avait pas été si chargé, tu nous aurais peut-être suivi jusqu'au bout des 6500 km.
Ah, peut-être. En tout cas, j'aurais aimé parce que j'imagine que vous avez vu des paysages fantastiques. Il y a eu les Carpates, le Beaufort, la Turquie. Mais bon, on ne va pas griller toutes les étapes. Je crois que vous avez commencé d'abord par Strasbourg. C'est moins exotique, mais... J'ai cru savoir qu'il y a eu des choses intéressantes à Strasbourg qui ont pu se dire et qui ont pu se voir, puisque Strasbourg, on ne le sait pas forcément à Paris, hein, où on a un peu tendance à tirer la couverture à soi, mais Strasbourg est de loin la ville la plus cycliste de France.
Oui, tout à fait. Et en fait, l'intérêt de ce trajet, alors on reparlera de pourquoi ce trajet de façon plus globale et pourquoi la COP, dans la deuxième partie, comme tu disais, François, mais ce trajet, dès le départ, a été vraiment intéressant, même si on était en France et même si des choses qu'on pensait connaître. On a découvert des choses qu'on connaissait peut-être de loin. Comme tu dis, Strasbourg est la première ville cyclable en France. Et donc ça a été l'occasion pour les participants. Alors, je te préciserai... En fait, peut-être je fais une parenthèse vite fait sur les participants.
Vas-y, oui.
Participants, comme tu dis, on était peut-être 25 au départ. En fait, en tout, sur le trajet, il y a eu 200 participants.
D'accord.
Donc, un participant, c'est quelqu'un qui fait quelques jours, à quelques semaines, à quelques mois, ou comme je l'ai fait, l'intégralité du trajet pendant 5 mois. Donc en fait, ces participants, en fait, ça a été l'occasion pour eux. On avait en fait un format assez classique, assez bien établi dans notre trajet, de dire quand on arrive dans une ville... On rencontre la presse, on parle du projet, on rencontre les associations vélo, on rencontre les politiques en charge des politiques vélo dans les villes. Et donc avec ce canevas-là, on est arrivé à avoir des rencontres très intéressantes tout le long du trajet. Et on a pu aborder par exemple la question du vélo en ruralité. Vélo en ruralité, tu peux te dire le vélo pour aller au travail, c'est beaucoup un sujet... C'est un sujet en fait de ville, un sujet très urbain. La réalité, c'est que il y a, je crois, l'essentiel des déplacements en campagne, en fait, qui font à peu près une vingtaine de kilomètres. Donc, vingtaine de kilomètres, c'est tout à fait quelque chose pour aller au travail que vous pouvez faire à vélo électrique. Il n'y a aucun problème pour faire ça. Par ailleurs, étant donné en fait le niveau de vie dans les campagnes, le vélo peut être aussi une alternative à la voiture et sur
oui, un plan économique. Jusqu'à un certain âge quand même.
Oui, jusqu'à un certain âge. Mais là, c'est intéressant. Alors, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, François, parce que quand on parle de vélo et qu'on parle de développement du vélo, systématiquement, il y a deux arguments. Le premier, c'est celui que tu viens d'opposer, l'âge ou les difficultés logistiques, etc. Donc, quand on parle de vélo, il faut vraiment se dire qu'on parle de vélo pour toute une tranche de la population et qu'on n'est pas en train de cibler tous les âges et tous les usages, mais que la promotion qu'on fait du vélo en tant que moyen de déplacement doit être entendue finalement pour une majorité de personnes. Donc, certes, pas tous les âges, mais en tout cas, il y a plein d'âges qui peuvent aller se.
Ceci étant, ma grand-mère qui habitait à Blamécourt dans le Val d'Oise, ouais. A fait du vélo pratiquement jusqu'à sa mort. Quoi.
Oui, parce que le vélo était aussi quelque chose de bien plus utilisé qu'il n'est maintenant. Mais voilà, donc tout ça, c'était une petite parenthèse pour. Alors, la deuxième objection que tu entendras sur le vélo, c'est les cyclistes sont très imprudents, ils font n'importe quoi, etc. Et donc, ça, c'est les deux objections majeures. Qui sont émises ou en tout cas sont exprimées dans un réflexe de défense de personnes qui sont des automobilistes convaincus. Donc on en reparlera après parce que je ne veux pas trop dériver par rapport à ta question initiale, mais la question des objections au développement du vélo et la question de la sécurité aussi qui est une question importante, j'aimerais qu'on arrive à la traiter en deux secondes dans le cadre de cette émission, sont des problèmes et sont des objections aussi qui sont levées certainement.
Les chiffres de la sécurité, c'est quand même une grande partie des accidents mortels à vélo sont en zone rurale, sont sur des axes où le différentiel de vitesse est énorme.
Oui.
Et effectivement, c'est là où il y a, quand il y a une collision, c'est irrémédiable. Quoi.
Oui. Alors, non, je voudrais juste revenir à ta question et donc ce qu'on a vu sur le chemin et en quoi c'était intéressant. Donc, pour terminer sur la ruralité, c'était aussi la réalisation pour moi qui suis un urbain, eh bien du fait que dans ce cadre rural, tu peux avec un vélo électrique, à des conditions financières beaucoup plus abordables qu'une voiture, tu peux arriver à effectivement faire des trajets réguliers, aller travailler en vélo électrique et donc trouver une solution qui est à la fois économique et donc bonne pour la planète. Ça, c'était là. Donc, c'était entre Paris et Strasbourg.
Entre Paris et Strasbourg, vous aviez rencontré des élus locaux ou départementaux qui ont mis en place des pistes cyclables intervilles, quoi.
Ouais, c'est ça qui est intéressant.
Oui. Alors,
tout le monde ne fait pas 6000 km, mais il y en a beaucoup qui ont envie de faire des grandes distances, même à vélo. C'est ça qui est intéressant.
Oui, et on a des axes qui existent en France pour faire des grandes distances. Ouais. Mais après, même dans la réalité, après, est-ce que tous les trajets travail maison en ruralité peuvent suivre les grands axes vélo? J'en suis pas convaincu aujourd'hui. Mais malgré cela, je peux vous dire que nous qui avons traversé 6500 km, dont une grande partie, une écrasante majorité sans piste cyclable, on prend pas tant de risques que ça. Hein. Je veux dire, si on s'habille convenablement, si on fait attention, si on est très visible, on n'est pas en situation de danger. Certes, les chiffres d'accidents sont plus importants qu'en ville, mais ça ne prohibe pas du tout l'utilisation du vélo en ruralité. Et donc, dans ces étapes qui étaient à la fois, donc là, pour parler de la France, donc à la fois des étapes de campagne, on s'est arrêté à Nancy aussi, dans lequel on a vu tous les efforts que faisait la ville sur le plan du vélo. On a rencontré les gens, notamment de la maison du vélo. Ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus dans les villes, c'est d'avoir un lieu ou plusieurs lieux centraux qui se saisissent de la question du vélo, qui permettent d'apprendre à réparer son vélo, qui font des thématiques autour du vélo, qui louent des vélos, qui prêtent des vélos. vélo. Et donc ça, c'était aussi bien de voir ça, dans ce qu'on a vu à Nancy. Strasbourg aussi, où on a vu qu'ils étaient plus avancés sur cette thématique-là. Ils ont une part modale dans le vélo. Donc la part modale, c'est la part des trajets qui sont effectués dans une certaine catégorie de transport. Donc leur part modale est, je crois, de tête à presque 20%, aux alentours de 20%. C'est effectivement la ville la plus cyclable de France. Et donc à nouveau des enseignements, et on en reparlera après. On est parti là-bas pour porter 10 propositions sur le vélo. C'était l'occasion aussi pour nous, dans un dialogue avec Strasbourg, de prendre leur feedback sur ces 10 propositions et de les enrichir et de les affiner petit à petit.
Alors, qu'est-ce qu'enfin, à la COP, qu'est-ce qu'ils font, on soit capable de les transmettre. De remarquable qu'on ne connaît pas forcément
Alors, en fait, c'est pas une chose en particulier. Ce qu'il faut bien comprendre sur les politiques vélo, c'est que c'est un maillage et c'est un ensemble de solutions qui arrivent à faire que les gens prennent le vélo. Parce que les freins au vélo, ça peut être la sécurité, ça peut être le vol, ça peut être la praticité. Est-ce que j'ai des endroits pour garer mon vélo ? Donc, si vous allez dans une ville comme Strasbourg, vous n'allez pas voir... tiens, cette mesure-là, on ne l'a jamais vue nulle part ailleurs. Et en fait, c'est simplement la déclinaison de toutes les mesures, mais dans une mesure très importante. Donc, c'est ça qui est impressionnant avec Strasbourg, c'est que sur tous les aspects, pistes, garage à vélo, aménagement des rues aussi, de faire des rues, ce qu'on a commencé à voir à Paris, des rues vélo.
Je crois qu'il y a une initiative strasbourgeoise autour des transports scolaires à vélo. Donc, aller favoriser les enfants pour qu'ils aillent à l'école en toute sécurité à vélo. Tu peux nous en parler de ça ?
Alors, c'est ce à quoi je pense. En fait, c'est l'idée des vélobus, en fait, dans lequel en fait, vous organisez des cortèges de vélos enfants qui suivent un trajet donné. Donc, en fait, l'enfant va se préparer à son vélo. Il sait que le cortège va passer devant chez lui et qu'il pourra rejoindre le cortège.
Donc, c'est un peloton, quoi.
D'être dans ce peloton, et tout à fait, le mot est plus juste,
ouais, c'est juste.
Le fait de rejoindre le peloton, le mettra en sécurité. Et donc ça, c'est des choses qu'ils font aussi, par exemple, à Barcelone, et donc et qui sont très efficaces.
En plus, c'est sympa de voir défiler les gamins comme ça. Ouais.
Exactement, ouais. Ah. Exactement.
Mais je crois qu'ils faisaient aussi arrêter la circulation aux horaires de rentrée des classes.
Ça, c'est ce qu'on appelle aussi, c'est peut-être ce à quoi tu fais référence, les rues au vélo, en fait,
oui.
les rues aux écoles, pardon. Et effectivement, donc, en fait, dans les rues où se trouvent les écoles, en fait, il y a une interdiction de circuler et donc une priorité totale des piétons et des cyclistes pour se rendre.
Bon, en fait, tout ça, c'est une bonne partie du bon sens, quoi. Avant, on était un peu plus respectueux des us et coutumes avant que la voiture impose sa loi.
Oui. Alors, c'est sûr qu'on a changé sur les 30-40 dernières années. Ça a beaucoup changé en termes de mentalité. Je pense qu'aujourd'hui, la question n'est pas s'il y a du vélo dans une ville. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à faire les investissements ? C'est une première partie. Et puis aussi les concessions sur l'aspect voiture, de façon à vraiment enclencher pour passer de... Si vous prenez une ville qui fait un petit peu les choses côté vélo, mais pas plus, elle va avoir 1% de part modale sur le vélo, à des 10% et plus. Donc pour faire un 10% et plus, il faut être vraiment engagé sur la partie vélo. Donc d'une part, faire les investissements, donc investissements en pistes cyclables, infrastructures, etc. Si on le peut, parce qu'il se trouve, moi, que je suis dans une ville qui est très particulière, avec énormément de dénivelé, des petites rues, et donc on a beaucoup de situations dans lesquelles on ne peut pas mettre de pistes cyclables alors qu'on souhaiterait le faire. Mais bon, si on le peut, il y a énormément de villes qui sont en capacité de le faire. Donc si on le peut, donc à la fois faire ces investissements et puis aussi ces concessions, parce que en fait ce qu'on observe, c'est que on ne peut pas développer le vélo sans diminuer la voiture, et que les politiques qui disent je vais faire de la piste, je vais faire du parking, etc., si ça ne va pas de pair avec une réduction de la vitesse et du volume de voiture, ça ne peut pas marcher. Parce que le sentiment de sécurité ne sera pas là et vous n'aurez pas ce switch du 1%.
Donc on dit souvent qu'il faut, c'est les infrastructures qui appellent les cyclistes, donc c'est plutôt une politique de l'offre de public,
oui,
qui doit être mise en place. Il ne faut pas attendre que les vélos soient là pour leur construire des
pistes. Alors ça, c'est, on va dire, une erreur de débutant, mais tu as raison, François, communément faite, c'est que en fait, il faut d'abord mettre l'infrastructure, d'abord, comme je disais, réduire en vitesse et en volume la voiture, pour que après on ait des cyclistes. Et ça, c'est souvent une critique qui est faite, on va dire, par les pro-voitures, de dire ben, on a installé telle piste à tel endroit et elle n'est pas fréquentée. Alors certes, au début, elle n'est pas fréquentée, mais petit à petit, justement, grâce à la présence deux pistes, parce qu'après, il faut en avoir plusieurs pour faire un maillage, pour que ce soit efficace, les personnes vont être effectivement intéressées par ce switch vers le vélo, vont le faire, et à ce moment-là, on va voir les pistes cyclables. Il n'y a qu'à se tourner vers le boulevard de Sébastopol à Paris, qui est devenu une autoroute à vélo, qui est même pour le coup trop chargée, pour se dire qu'effectivement, les pistes appellent l'usage. Et donc ça, mais comme je dis, c'est un peu une erreur de débutant. Donc les villes ou les responsables de politique transport qui ne le sauraient pas, je pense, seraient de mauvaise foi à penser que c'est.
Oui, donc j'aurais mieux qu'il y missionne, quoi.
Non, mais en tout cas, il faut aller contre cet argument de dire, non, il n'y a pas de vélo dans notre ville, donc on ne va pas mettre d'infrastructure.
Ok. Alors donc en France, tu as vu des initiatives et qu'il faudrait pouvoir encore plus populariser, certes. Mais qu'est-ce que tu as vu dans les autres pays d'Europe? Puisque de toute manière, je crois qu'il y a eu, c'était un peloton européen, ou du moins il y a eu pas mal de participants qui venaient d'autres pays, qui t'accompagnaient sur ce parcours. Qu'est-ce que tu as vu d'intéressant en Allemagne? Est-ce que à Munich ou ailleurs, il y a des choses dont on pourrait s'inspirer?
Alors après, donc si on va donc sur si on continue, on va dire qu'en termes de typologie de pays, il y a vraiment en fait il y a deux typologies, on va dire, ou trois. C'est en fait, vous avez les pays européens qui ont des vraies politiques cyclables et qui après peuvent varier entre les villes qui font semblant ou pas, mais en tout cas, on va dire qu'il y a un minimum d'infrastructures. Vous avez les pays européens, ça c'est une première chose, et qui, pour nous, ça, j'irai jusqu'à l'Autriche et puis peut-être un bout de la Slovénie. C'est cette première typologie de pays. Vous avez en fait après les pays dans lesquels vous allez avoir, ça va être très contrasté entre, et là ça va plutôt se faire au niveau ville, entre les villes qui n'en ont rien à faire, donc ils font zéro au niveau du vélo. Il faut savoir que certaines villes de... Alors, je ne vais pas les nommer parce que je n'aime pas faire du bike-shaming inutile, mais c'est sûr qu'on a croisé des villes sur lesquelles la proportion du nombre d'habitants et du kilomètre de pistes cyclables est quasiment inexistant. Et en fait, le pire qu'on ait vu dans ces situations-là, c'est les alibis dans lesquels vous allez en fait avoir une piste cyclable quand même dans la ville, mais elle sera à l'intérieur du parc. Donc, elle permet aux gens de faire du vélo le dimanche, mais en tout cas, aucunement d'aller à leur travail à vélo. Donc, ça, c'est. Et donc, dans cette deuxième typologie de villes ou de pays, donc on a des villes qui ne font rien du tout. Et puis après, perdu au milieu de la carte entre l'Europe et puis Bakou, notre destination, vous avez des villes qui font bien leur travail, qui sont sur le chemin d'atteindre ces 10%.
Alors, celle-là, tu peux les citer.
Alors oui, je peux les citer. Il y a la ville de Sofia, par exemple, en Bulgarie, qui fait beaucoup d'efforts là-dessus, qui est encore au début du trajet. Donc, vous regardez la part modale à Sofia, je ne sais pas quelle est-elle exactement, peut-être 2%, 3%, mais ce sont des gens qui sont sur le chemin. Et les villes qui ont très bien réussi, par exemple, Novi Sad, qui est passé en l'espace de 6 ans, qui est passé de 2 à 3% de part modale à 12%, Novi Sad, donc, en Serbie.
Merci.
En revanche, Belgrade en Serbie, là vous pouvez dire il y a à peu près la même culture auto aussi bien à Novi Sad qu'à Belgrade. En revanche, vous avez le résultat qui est complètement différent et qui montre bien que c'est non seulement la culture, mais aussi par rapport à cette culture-là, qu'est-ce que pense le politique et à quel point il est motivé. À quel point il a une vision pour changer sa ville, pour convaincre, prendre le risque, qui est un risque minimal. Attends, je termine là-dessus, François, ouais. Qui est un risque minimal, je vais vous dire pourquoi après, mais de dire, on met cette infrastructure cyclable, on réduit la vitesse pour les voitures, on réduit le volume, grogne des automobilistes dans un premier temps, mais systématiquement, satisfaction des citoyens en majorité. Si vous regardez les proportions de citoyens qui disent on souhaite qu'il y ait plus de vélos, que la ville soit plus apaisée, quitte à faire diminuer la facilité de circuler en voiture, elle est systématiquement des deux tiers. Vous regardez les études en Angleterre, vous regardez les études en France, etc. En fait, la majorité de la population souhaite ces changements. Et donc, vous avez, pour terminer sur la Serbie, Novi Sad, ils ont pris ce risque, parce que forcément, au début, vous avez des levées de boucliers, ça passe pas bien, mais au final, vous avez des gens qui sont très contents de la ville, Novi Sad, c'est le cas.
Alors moi, j'ai une grande interrogation, la grande partie, alors il faudra qu'on fasse vite, parce qu'on est tenu par le timing, mais la traversée de la Turquie. Parce que la Turquie est un pays un peu intermédiaire, où souvent il y a des catégories sociales qui ne sont pas forcément parmi les plus aisées. Et souvent, je me dis, mais le vélo, c'est quand même un moyen d'émancipation. Ça ne coûte pas si cher que ça. C'est à peu près à la portée de tout le monde. Développer la liberté de circulation, ça pourrait commencer par le vélo, et c'est quand même assez rare. Alors qu'en Turquie, ça se passe comment ?
Alors, en fait, en Turquie, on est dans ces genres de pays, ce profil de pays, où en fait, il y a encore le culte de l'auto, c'est-à-dire c'est un symbole de grande réussite sociale, et donc les familles vont s'évertuer pour avoir ce qui sera leur première voiture. Et donc, il reste, on va dire, cette image de la voiture qui est très présente. Et donc c'est cette culture-là dans laquelle s'imprègne le mouvement ou les associations vélo et les personnes qui veulent faire du vélo. Il faut savoir que, donc, malgré cette culture générale que vous allez observer en Turquie, il y a un très fort terreau associatif. Vous avez des associations qui sont très présentes, qui arrivent à faire des choses extraordinaires, des journées vélo, des pelotons ou des cortèges vélo à diverses occasions, qui arrivent à imposer des pistes cyclables, etc. Et donc vous avez une vraie présence des cyclistes qui l'utilisent sur leur trajet quotidien, parce que, comme tu dis, François, c'est un facteur d'émancipation, c'est économiquement très abordable, donc il y a vraiment cette soif du vélo de la part des habitants. Donc vous allez avoir cette pression qui existe malgré la culture, et qui malheureusement est relayée de façon très inégale par les villes. Et je dirais qu'en général, la ville turque, elle est très peu faite pour le vélo. On a été, sans les nommer, mais vous prenez les grandes mégapoles turques, ce sont des choses qui sont très inviables à vélo. Mais on est plein d'espoir, parce qu'il y a cette force citoyenne.
Il y a des cyclistes, il n'y a peut-être pas de piste cyclable, mais il y a des cyclistes pour le coup.
Exactement, il y a une très forte envie, et je dirais pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons d'émancipation. D'émancipation de la femme aussi, qui peut se déplacer grâce au vélo.
D'accord.
Turquie. Voilà.
Mais oui, donc, parce qu'effectivement, entre la marche à pied et la voiture, il y a un intermédiaire.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
C'est une illustration sonore.
Dans un bain de foule des veaux. À moitié épaillie, on se mouillait mollement. La glace fondait dans les sprites. C'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Foutait la frousse, boum, des poils en même temps, La clarté nous pendait de nez dans sa vive lumière bleue. Nous étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
Allez, ça y est, les gladiateurs sont revenus dans l'arène. Donc, Guillaume, tu as fait tes 6500 km, tu as fini par traverser la frontière. Bon, il faudra qu'on fasse quelque chose pour raconter tout ça. On n'a pas le temps de raconter encore tous les détails du périple. Mais quand tu es arrivé à Bakou, comment ça s'est passé? Déjà, est-ce qu'ils t'ont ouvert les portes? Est-ce qu'ils t'ont donné le visa, le droit de rentrer, comment ça s'est passé?
Alors, on est arrivé, on était très, très étonnant parce que, effectivement, les gens ne s'attendaient pas à ce qu'on vienne à vélo. Donc, d'abord, il a fallu passer la frontière qui était fermée pour tout trafic terrestre, qui était une décision qui avait été prise il y a quelques années par l'Azerbaïdjan. Donc, il a fallu obtenir des permis spéciaux, ça a été un premier challenge. Et c'est vrai qu'en partant de Paris, on n'était pas du tout sûr d'arriver à la COP. Donc, on a réussi à franchir cet obstacle, qui était un obstacle important. Et puis, on est arrivé devant la COP. Et là, surprise, parce qu'ils savaient ce que c'était que des bus de personnes qui arrivaient par les transports en commun. Ils savaient ce que c'était que des bagnoles
de diplomates.
Mais ils ne savaient pas ce que c'était des vélos qui arrivaient à la COP. Donc, première chose, on a dû créer le parking à vélo de la COP. Donc, parce que la première fois, on a été mis au rebut dans un parking lointain voiture. Ils nous ont mis deux militaires pour garder les vélos, ce qui était très, très aimable de leur part pour la sécurité, mais qui n'était pas pratique, sachant que le vélo permet normalement d'être proche. Donc, à cet ajustement près qu'il a fallu faire au démarrage de la COP, on a été accueillis, on a pu effectivement rentrer dans la zone des officiels. Et là, on a eu des discussions très intéressantes. On a eu on se promenait dans les couloirs de la COP avec nos casques vélo, nos tenues vélo pour être très visibles. Et là, on a eu des gens qui nous ont arrêtés, qui disaient « Ah oui, c'est vous les cyclistes qui étaient au
les
courant
fous.
D'eux ». Et on s'est présenté aussi. Et on a eu en fait, le fait d'avoir fait 6500 km, c'est un sésame. C'est-à-dire que les gens vous écoutent, les gens disent « Ah ben tiens, vous avez fait 6500 km,
chapeau bas, quoi.
Racontez-nous, chapeau bas ». Et donc, on a eu des interactions avec l'ambassadeur du climat hollandais, avec la ministre de l'environnement anglaise qui nous a fait applaudir dans sa conférence. On a eu toute une série d'interactions avec des politiques qui ont été rendues possibles. On a été salués par l'ambassadeur du climat français qui a salué notre initiative. Donc, toutes ces choses-là ont été rendues possibles par le fait qu'on avait fait tout cet investissement sportif et humain pour rejoindre la COP. Et donc, ça a été une porte d'entrée. Une fois qu'on a passé la porte d'entrée, pourquoi on y était ? On y était pour défendre les politiques vélo. Je donne juste un chiffre, et c'est juste le chiffre que je vais donner. Si on arrive à faire passer la part modale, c'est-à-dire la part que représentent ces transports, sachant qu'il s'agirait des transports publics, du vélo et de la marche, si la part de ces transports a atteint 80% dans toutes les villes et de façon mondiale, on va réduire nos émissions dans le domaine du transport de 50%. Donc, il y a vraiment une carte à jouer sur ces trois
donc,
transports.
Donc, grosso modo, la circulation individuelle peut être décisive.
Exactement. Arriver à réduire la circulation individuelle. Et en plus, quand on regarde dans le détail entre ces modes de transport, c'est difficile. La marche, c'est culturel. Ce n'est pas quelque chose que vous allez augmenter en mettant plus de trottoirs ou quoi que ce soit. La marche, c'est vraiment culturel. Les transports publics, c'est cher. C'est très bien, les transports publics sur un plan des émissions. Mais en revanche, ça représente un gros investissement assez long à mettre en place. En revanche, des pistes cyclables, ça ne coûte pas cher. Des investissements sur les vélos, ça ne coûte pas cher. Donc, il y a une vraie vraie carte à jouer pour les gouvernements, pour les villes dans cette direction. C'est ce qu'on est venu donc rappeler ou expliquer à la COP, et on a été entendu par le fait qu'on ait fait tant de kilomètres.
Alors bon, effectivement, il faut que nos civilisations occidentales et industriels se désintoxiquent de la voiture, puissent réduire ces déplacements individuels carbonés. Par contre, il y a tous les pays du Sud, qu'on a entendu, dont on a parlé dans des précédentes émissions, elles, est-ce qu'elles ne peuvent pas faire l'économie, je dirais, du tout voiture, et pouvoir justement, parce que c'est là où il y a d'énormes leviers pour pouvoir changer la donne, si elles pouvaient éviter de faire les mêmes erreurs que nous et de cette, engorgement de la voiture. On parle en Afrique, il y a, semble-t-il, un développement faramineux de la bagnole. Est-ce que tu as vu des Africains, des Indonésiens ou je ne sais trop quel autre pays qui étaient à l'écoute de...
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors, tu as tout à fait raison, François. Ces pays-là qui sont moins développés peuvent éviter l'erreur de passer par le tout voiture comme étape dans leur développement urbain et dans leur développement des transports. J'en veux pour preuve certaines villes, comme par exemple Tianjin en Chine, qui a vraiment eu un schéma urbanistique qui était sur le point de connaître cette phase du tout voiture et qui l'a vraiment limité grâce à des investissements dans le domaine du vélo, alors et grâce à des infrastructures, des plans urbains, et donc il y a toute la dimension chinoise de planification qui a aidé dans ce pays. Dans d'autres pays, en fait, ils ont effectivement cette chance de pouvoir aller directement de cette étape qui est très, très, on va dire, moyen de transport autre qu'individuel, de pouvoir aller directement vers le vélo. Et c'est pour nous, en fait, ça a été des moments de découverte avec des gens. Là, j'en veux pour preuve, à un moment, on a croisé le maire d'une ville au Mozambique qui, en fait, avait fait toute sa campagne à vélo et qui l'a emporté contre son opposant qui, lui, était en SUV. Et donc, on voit bien que le vélo n'est pas aussi entaché que peut-être dans d'autres endroits, parce que
c'est plus discriminatoire, quoi. C'est ça que tu nous dis.
Non, mais il est vu comme un facteur d'émancipation. Sans aller jusqu'à la voiture, vous pouvez déjà vous dire si vous êtes à vélo plutôt qu'à pied, vous êtes déjà très bien. Et directement, on a cette image moderne, attirante, sexy du vélo, qui est dans nos cultures aujourd'hui et qui commence à être directement accessible dans ces cultures-là, pour se dire ça, c'est une solution. Maintenant,
il te reste 10 secondes,
non, mais maintenant,
15 secondes
pour exagérer sur cet aspect-là. Il y a cette capacité à passer directement. Maintenant, on a aussi affaire à ce que je décrivais sur la Turquie, le problème du statut de la voiture comme moyen de déplacement. Mais en effet, c'est des pays qui peuvent éviter les erreurs qu'on a évitées.
Alors, la question un peu, taquine, après Paris-Bakou, tu vas faire Paris-Belém à vélo ou...
Alors, ça, c'est une bonne question, et c'est une question qu'on est en train de se poser en ce moment. Ça lève plein d'interrogations et plein de défis sur le plan humain, sur le plan logistique.
Est-ce qu'on pourra avoir un topic, comme ils disent, vélo dans les prochaines COP?
Ah ben, le topic, il est existant, parce que, en fait, dans les COP, vous avez toutes les dimensions, et notamment vous avez la dimension transport. Donc ils sont prêts à prendre ce topic là. Je pense que nous, on en a été très représentants à cette première COP, et je pense que dans les COP, on va en parler de plus en plus. Mais juste pour terminer,
oui, parce qu'il faut qu'on termine.
Non, mais d'ailleurs, on appelle toutes les bonnes volontés sur ce sujet. La question, c'est comment aller d'Europe à Belém en vélo et à la voile, parce que donc on voudrait avoir un moyen de transport
cargo,
en Pologne.
Un cargo voilier.
Et donc toutes les personnes qui connaîtraient sont invitées à regarder sur notre site. Notre site, vous allez sur COP29 Bike Ride, vous tapez ça sur Google et vous pouvez donc accéder à notre site, et vous aurez des informations, et signalez votre intérêt sur l'idée d'une COP 30 à vélo.
Donc on va pouvoir retrouver ça sur les pages, les réseaux sociaux de la page de Radio d'Aligre FM. Il me reste naturellement à remercier la régie,
Bruno, Mandé, Armand Guri, et voilà.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.